Europe 1, 10h-11h, les grands entretiens. Charles Villeneuve.
Nicolas Sarkozy, en 2007, président de la République, vous nommez à Londres un nouvel ambassadeur, Maurice Gourdeau-Montagne. Le diplomate, en présentant ses lettres de créance à la reine d'Angleterre, Elisabeth II, lui rappelle à l'occasion de sa visite en France en 1992 qu'il n'avait jamais vu autant d'habitants sortir de chez eux et de leur ferme pour venir la saluer. En fait, madame, poursuit l'ambassadeur français, il n'y a que deux choses qui suscitent un tel engouement en France, la reine d'Angleterre et le Tour de France cycliste. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas aussi d'autres chefs d'État, à ma connaissance, qui aiment autant le vélo et qui le pratiquent avec assiduité et à qui je peux demander de nous expliquer pourquoi aime-t-on autant le Tour de France que le monde entier nous envie.
Bon, le Tour de France, comme la reine d'Angleterre, je ne sais pas si on peut les comparer, mais ce sont deux institutions. Un mois de juillet sans le Tour de France, ce n'est pas un mois de juillet. Moi, j'ai commencé à aimer le Tour de France lorsque j'étais très jeune, enfant, j'avais pas encore 10 ans, j'allais en vacances avec ma mère sur les plages atlantiques à Royan, et le Tour de France passait à Royan chaque année. Soit il s'arrêtait à Bordeaux, où il y avait toujours un sprint, mais parfois il s'arrêtait à Royan. Et les coureurs faisaient étape, et je faisais le soir comme le matin l'arrêt du... à chaque hôtel, pour voir les mécaniciens travailler les machines. Il y avait une odeur de graisse fantastique. Les vélos étaient d'ailleurs, de mon point de vue, plus beaux à cette époque, puisqu'ils n'avaient pas les formes aérodynamiques qu'ils ont aujourd'hui. Les fils sortaient de tous les côtés. Et lorsque il y a eu un grand progrès, c'est lorsque dans les cocottes de frein et dans les freins, on a fait des trous pour alléger le cadre, qui était bien souvent en aluminium ou en acier. On était bien loin des matériaux modernes d'aujourd'hui. Donc j'aime le Tour de France depuis cette époque. Je crois que le premier Tour de France que j'ai suivi, c'est 1967. Je pense qu'on était encore, c'était la dernière époque des équipes de France nationales. Il y avait l'équipe de France A, l'équipe de France B et l'équipe de France C. C'était les grandes années de Lucien Aymar qui avait gagné le Tour 66, de Roger Pinjon, de Désiré Lothor et toute l'équipe.
Des Français.
Des Français, bien sûr, parce que la France est une grande nation de cyclistes,
vélo, oui.
Comme l'Espagne et comme,
l'Italie.
Et comme l'Italie. Après, j'ai aimé Louis Socagna et bien sûr tous les Italiens. Mais mon amour pour le Tour de France date de ce moment et c'est lié à Europe.
Europe 1, oui.
C'est lié à Europe 1, si vous voulez.
Oui.
C'est lié à Europe 1, puisque à l'époque, il y avait le podium d'Europe 1 qui suivait les étapes du Tour de France, qui était gratuit, où des chanteurs venaient, et donc on assistait à l'arrivée du Tour de France dans le public. Après, on allait collecter les autographes dans les hôtels de la région, et on finissait le soir devant le podium d'Europe 1, qui était gratuit, où on passait une soirée formidable.
Ce n'était pas encore l'époque des commentateurs de Jacques Anquetil, Fernand Choisel, Jacques Forestier, etc. Ce n'était pas encore cette époque-là. Là, ça précède cette époque-là.
Oui, mais c'était une époque très bon enfant. C'était une époque où on pouvait approcher les coureurs, y compris sur la ligne de départ. Je me souviens très bien d'avoir été tout près de Lucien Aymar, une année après qu'il ait gagné... son Tour de France, et d'avoir pu parler avec lui, j'étais un enfant.
Vous l'avez revu, vous qui fréquentez le Var, parce que c'est un Varois.
Oui, c'est un Varois. Je revois beaucoup quelqu'un que j'aime énormément, qui est Richard Virenque.
Qui est un Varois aussi,
bien sûr. Il y a un autre Varois que j'ai croisé à vélo, qui est Thibaut Pinot.
Oui, bien sûr. C'est vrai, on oublie qu'il est Varois.
En tout cas, il vient en vacances. Il vient se reposer.
D'adoption.
Je l'ai croisé sur ses routes. Hein.
Enfin, ça grimpe pas mal hein, dans le coin.
Bon, on n'est pas dans les Alpes.
Non, c'est vrai. Mais enfin, bon, on parlera d'ailleurs de votre goût justement pour la montagne. Alors, quand je rappelais au début que le monde entier nous envie cette épreuve, je ne galégeais pas. 60 pays retransmettent en direct le Tour de France, et même plus pour l'arrivée cet après-midi sur les Champs-Élysées. Mais avant de rentrer dans la grande histoire du Tour, deux questions, Monsieur le Président. Cette formule en forme de clin d'œil, le Tour, dit-on, réconcilie les couples, l'homme regarde le vélo et la femme les châteaux. Vous ratifiez ?
Non. Non, parce que c'est une vision des rapports hommes-femmes qui sont trop caricaturales. Si vous regardez le public le long du Tour de France, il y a autant de femmes que d'hommes. Parce que c'est un loisir familial. Et on ne comprend rien au Tour de France si on ne comprend pas ça. C'est toute la famille qui est passionnée. Et c'est un des rares programmes qui est fédérateur. Mais est-ce qu'on connaît beaucoup de sports où le dernier est applaudi comme le premier ? Où on a chacun ses favoris, mais on applaudit aussi ceux qui ne sont pas ses favoris. Où il n'y a pas de barrière, où on peut les voir passer 2 secondes, et pour ça, ils font parfois 2 jours de route. Et c'est tout le camping-car, toute la famille qui est là. Moi, j'allais voir les étapes du Tour de France quand ils ne passaient pas, je les allais les voir au café. Parce que dans la petite maison que louait ma mère, l'appartement que louait ma mère en vacances, il n'y avait pas la télévision. J'allais au café Mistral. Et à l'époque, au café Mistral, il y avait un brouhaha énorme et la télévision était fixée quelque part au plafond sur un bras articulé. Ce qui fait qu'on sortait des étapes du Tour de France, on avait un torticolis parce qu'il fallait regarder ça. Bon. Et on était quelques tables de passionnés dans un brouhaha invraisemblable, alors que les gens étaient à la plage, nous, on regardait le Tour. Eh bien, c'est fédérateur. Et je ne pense pas que les hommes ne regardent pas les châteaux et les femmes ne regardent pas les coureurs. Je pense que c'est une époque, certainement, qui a existé, mais qu'aujourd'hui, les choses sont plus fluides.
Alors, vous êtes passionné de sport. Votre parcours, votre vie est rythmé par le goût de la compétition. Est-ce que le sport est à vos yeux une allégorie de la politique avec ses succès et ses échecs ? Une égale aptitude à l'effort, au don de soi, une même incertitude du résultat ? Est-ce que cette allégorie, vous la vivez profondément ?
Oui, mais c'est même plus que ça. Je pense que le sport est une affaire très sérieuse et essentielle. On a un patrimoine de santé qui est ce qu'il est, qui ne connaît pas l'égalité, malheureusement. Quand vous voyez qu'à Villejuif, il y a des enfants de 3 ans qui ont la leucémie, on voit bien que l'égalité en matière de santé, ça n'existe pas. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que la maladie aime la graisse et n'aime pas le muscle. Tous les jours, je fais un jogging. Et tous les jours, j'ai pas envie d'y aller. Et tous les jours, je pense à la même chose. La maladie aime la graisse et n'aime pas le muscle. Et le sport, c'est pas simplement une allégorie politique. C'est une façon de vivre. C'est une façon digne de prendre soin du patrimoine santé qui est le nôtre. C'est une façon de se comporter. C'est une assaise. C'est un défi à la volonté. C'est une joie, mais une joie au bout de l'effort. Et ça apprend qu'il ne peut pas y avoir de plaisir s'il n'y a pas d'effort. Le plaisir est la récompense de l'effort. Et le plaisir sans effort, ça n'existe pas, en tout cas moi. Je l'ai peu rencontré dans ma vie. Donc le sport fait partie de ma vie. Il fait partie de ma vie pour le pratiquer, et il fait partie de ma vie pour le regarder à la télévision ou pour le regarder dans les stades. J'ai toujours été dans les stades. J'ai toujours regardé le sport à la télévision. Parfois, on se moquait de moi parce que c'était pas tendance. Ça n'a pas toujours été tendance, le sport. Mais moi, ma tendance a toujours été la
Ouais, ça fait populaire.
Peut-être, ça m'est... si vous saviez comment ça m'est égal. J'allais seul voir les matchs de football, j'avais 14 ans, on ne m'amenait pas. J'allais seul sur la route du Tour de France, on ne m'amenait pas. Et je pratique aujourd'hui, à mon âge, tous les jours, que Dieu fait.
Depuis quand vous le pratiquez, le vélo ? Le sport depuis toujours, mais quand, le vélo ?
C'est très simple. Mon premier vélo, je l'ai acheté dans une petite rue perpendiculaire à l'avenue de la Grande Armée. Et je peux vous dire, je m'en souviens. C'était un vélo Mercier. Il était violet. J'avais acheté le maillot qui allait avec, il y avait marqué Mercier Hutchinson en jaune. Et j'avais un Knickers vert. On ne pouvait pas me manquer. Avec des chaussettes hautes grises. Voilà. J'avais 13 ans. Tous mes copains rêvaient d'une moto. Moi, je voulais un vélo. Et l'équipe Mercier, c'était l'équipe de Louis Capute, le directeur fameux de oui. Raymond Poulidor.
C'était un bon sprinter, d'ailleurs.
Ça, j'étais trop jeune pour l'avoir vu sprinter. Moi, j'étais plutôt la génération de Guimard, Esclassant, etc. Bien après.
Vous pratiquez le vélo à quel rythme ?
Moi, je ne pratique le vélo que quand je suis dans le Var. Parce que j'ai peur à Paris, malgré les pistes cyclables. Et moi, je ne fais pas de la bicyclette, je fais du vélo. C'est pas le même sport.
C'est vrai.
Je me moque pas du tout de ceux qui pratiquent la bicyclette, mais la bicyclette, c'est bien.
D'autant que c'est accidenté dans le Var.
La vélo, c'est autre chose. Alors, quand je suis dans le Var, en plus, moi, sur le plat, je m'ennuie, j'aime quand ça monte.
Ah voilà, vous êtes grimpeur.
Non, je suis pas grimpeur parce que quand même, je suis lourd. Pour un grimpeur, je suis très lourd et je le sens.
Vous souffrez. Moi, je souffre. Je fais du vélo, vous le savez, mais je souffre quand je grimpe.
Non, enfin, disons que il faut monter comme un diesel. C'est-à-dire qu'il faut se dire, voilà, on en prend pour une heure de montée et on n'arrêtera pas de pédaler jusqu'en haut. Il faut prendre son petit rythme et y aller. Mais évidemment, l'école du Var, c'est pas l'école des Alpes. Mais enfin, c'est l'école qui peut faire 8 ou 10 kilomètres et qui peut faire 8-9%. Bon, on n'est pas à 20% quand même.
C'est vrai. Avant de continuer, Monsieur le Président, je vous propose un instant de fraîcheur, quelques minutes, et nous revenons pour examiner, ausculter votre panthéon du Tour de France.
Europe 1, 10h-11h, les grands entretiens. Charles Villeneuve.
Nicolas Sarkozy, le Tour de France, c'est d'abord une aventure humaine exceptionnelle. Faite de sueurs, de larmes, de folles échappées, de poignants abandons d'étapes qui s'inscrivent dans l'histoire. Quel est votre panthéon personnel ? Parce que vous êtes attaché évidemment à des grands du Tour. Et je vous ai lu, je vous ai entendu aussi, vous connaissez quasiment cette histoire, aussi bien que l'histoire de France.
Non, moi j'ai adoré Luis Ocaña.
Espagnol.
L'adversaire d'Eddy Merckx. Et quand il est tombé, c'était un drame. Et je me souviens d'un 14 juillet où Roger Pinjon avait donné une claque à un coureur. Je me demande si c'était pas Désiré Lothor ou quelque chose comme ça. Il y a eu un quasi-drame national. Peut-être vais-je choquer, mais quand Armstrong est revenu de l'enfer, c'est-à-dire de son cancer, ça m'a absolument épaté. Bernard Hinault est sans doute le plus grand champion cycliste français de tous les temps. J'ai adoré quand...
Plus que Jacques Anquetil ?
Ah oui, pour moi, oui. Pour moi, oui, même si...
Pourquoi ? Parce que Anquetil a gagné beaucoup, 5 Tours de France, oui, mais pas le cœur des Français.
C'était quand même une époque où la concurrence internationale était moins rude que celle qu'a eu à affronter...
Son concurrent, c'était Poulidor.
Bernard Hinault, quand même, qui avait déjà une internationalisation du Tour, qui n'est pas celle d'aujourd'hui, mais qui avait commencé. J'ai adoré quand Richard Virin, qui est revenu après toutes ces histoires qu'on lui avait mis sur le dos, et qu'il a gagné Paris Tour, c'est-à-dire la course la plus plate qui puisse exister, alors qu'il est un grimpeur magnifique. J'ai adoré l'histoire des frères Madio, quand ils étaient coureurs, et notamment ces Paris-Roubaix de légende, jusqu'à l'aventure de la FDJ, leur équipe, dans le Tour. J'ai aimé les exploits de Guimard, qui était quand même un sprinteur capable de gagner des étapes de montagne. J'ai adoré que Vanim puisse gagner le Tour de France, alors que personne ne s'y attendait. Bien sûr, j'ai admiré les Diables Rouges et Eddy Merckx. J'ai vibré parce que la question d'Eddy Merckx, c'était qui pouvait, non pas le battre, mais ne serait-ce que ce que le suivre. Mais j'ai aimé aussi tous les Flandriens, les frères Vlaminck, Walter Gottfried. Enfin bon, ça fait partie vraiment de ma culture. Et encore aujourd'hui, je regarde les étapes du Tour de France, mais président de la République, je prenais toujours 10 minutes quand j'étais à Paris pour regarder l'arrivée de l'étape du Tour de France.
Alors vous êtes non seulement...
D'abord, je pense qu'on ne peut pas comprendre les Français si on ne vibre pas aux mêmes émotions que les Français. Et les Français, ils vibrent au Tour de France.
Et c'est un moyen d'avoir compris les Français ?
Mais vous savez, quand j'ai été pratiquement chaque année sur le Tour de France, quand vous voyez ces foules ininterrompues sur 7-8 rangées, vous voyez ce qu'ils pensent de vous tout de suite. Parce qu'il n'y a pas de grossièreté, il n'y a pas de violence, mais on sait ce qu'ils pensent. Ils sont ensemble, autour de la table du camping-car, ils ont grimpé la montagne, ils attendent, ils se sont fait des amis, ils discutent, c'est bon enfant, mais c'est franc.
Mais peut-être aussi parce qu'ils savent que vous êtes non seulement un amateur, mais un expert.
Non, je ne suis pas du tout un expert.
Mais écoutez, vous êtes capable, m'a-t-on dit, d'analyser les stratégies, les braquets, la signification des écarts de course. Racontez-nous cette étape du Tour de France où vous prévoyez, contre tous les pronostics, l'attaque de Alberto Contador, l'Espagnol, dans le Tourmalet.
Non, mais c'était... Je crois qu'il y avait les frères Schleck avec... c'est le jour où il y a les frères Schleck qui sont ces jeunes luxembourgeois tout totalement longilignes et extraordinaires. Parce qu'Alberto Contador, c'était l'élégance faite coureur cycliste, comme souvent les Espagnols. Il y avait Indurain aussi. Et on était avec le directeur du Tour de France derrière les frères Schleck. C'était assez extraordinaire. Il y avait les frères Schleck, il y avait Contador. Je me demande s'il n'y avait pas... Armstrong aussi. Et je disais à Prudhomme, on est compte, il monte à 22,
Prudhomme,
23.
Prudhomme, c'est le directeur du Tour de France.
Le directeur du Tour de France. Il monte à 22, 23. C'était absolument extraordinaire.
22, 23, c'est le braquet.
Non, mais. Et c'était fantastique. On se régalait. Et dans la voiture, il me disait, non, c'est rabouille, il va rester tranquille. J'ai dit, mais non, je ne le sens pas comme ça. Je veux dire, il va leur planter une attaque. Vous allez voir, bon, j'ai eu de la chance dans ce jour-là.
Ouais, vous êtes modeste.
Non, j'ai eu de la chance.
22, 23.
Mais même d'ailleurs... à la télévision, quand je les vois, parce que on voit bien s'ils sont bien, s'ils bluffent, si ça va bien, si ça va pas, si ça va craquer. Parce qu'en montagne, on peut être vraiment bien et puis deux minutes après, n'avoir plus d'essence. Et c'est la défaillance. Et ça arrive comme un coup de massue. Ça ne pardonne pas. Et j'ai beaucoup parlé avec Richard Virenque encore il y a quelques semaines, qui me disait, tu sais, quand j'étais dans la montagne, parce que Virenque, c'est extraordinaire, c'est pas qu'il montait, lui. Il était toujours en danseuse.
Il faut le faire, d'ailleurs.
C'est Indurain montait très bien, mais assis.
Assis.
Et Richard montait uniquement en danseuse, quoi. Je lui ai dit, mais comment tu pouvais aligner des heures comme ça? Et il me disait, mais c'est tellement important. Le public, quand il y avait du public, il me portait tellement, j'étais dans un état second, je n'avais même plus mal. Même plus mal.
Est-ce que je peux vous poser pour les amateurs, pour les techniciens, une question technique ? Vous faites du vélo. Vous faites souvent dans le Var, d'ailleurs, la ligne des crêtes. Parce que ça grimpe, parce que vous aimez grimper, vous n'aimez pas tellement le plat.
Non, je m'ennuie sur le plat. Et... Ouais. Mais une fois qu'on est sur la route des crêtes, ça grimpe plus beaucoup. Ce qui est un problème, c'est pour monter.
Oui, pour arriver là-haut.
Pour arriver là.
Et vous montez avec quel braquet ?
Non, je monte. Je vous dis une chose très simple. Je monte à... Vraiment, au début des vacances, je dois être à 12 à l'heure, pour faire les choses plus simples. Et vraiment, après une dizaine de sorties, je peux peut-être faire... Allez, 14 à l'heure, jamais plus. Et en pulsation cardiaque, j'essaie de ne jamais dépasser 150. Parce que, à mon âge, c'est mieux. Mais ce qui est très agréable avec l'école, c'est qu'on commence à transpirer en bas et ça n'arrête plus. Quand j'ai fait le col du Babaou, c'est 10 km.
Oui.
Et c'est pas très dur, mais 10 km, donc c'est presque 45 10, minutes.
10, 12, quoi. Presque 12 km le Babaou.
Oui, ça monte pas toujours, mais enfin. Et quand j'arrive là-haut, on dirait que j'ai un robinet sous le menton. Parce qu'il y a quelque chose que je ne me suis jamais expliqué, je ne sais pas si ça intéressera nos auditeurs, mais à vélo, on transpire par la tête et pas par les jambes. Et ça, c'est extravagant. c'est la tête qui transpire et les jambes restent sèches. Même les coureurs du Tour de France,
j'avais pas remarqué
si ça. Vous les regardez, les maillots sont trempés, bien sûr, mais sont trempés par un mouvement de sueur qui part de la tête et qui descend. Et ce n'est pas les jambes qui dégoulinent de sueur. Or, ça devrait être le cas. Et d'ailleurs, quand il y a des phénomènes de déshydratation, il faut faire très attention, parce qu'on se déshydrate le cerveau. Ça m'est d'ailleurs arrivé une fois, j'étais président de la République, j'étais sans prudence faire un jogging par beau temps, je me suis déshydraté, j'ai perdu connaissance. Et c'est bien de la tête. Et on perd de l'eau par la tête. Et c'est... À vélo, je vois que moi, je transpire par le menton, comme un robinet, mais pas par les jambes. Un peu, bien sûr, mais pas par les jambes.
Je voudrais vous poser une question sur, pas un mystère, mais enfin, une question qui revient souvent. Poulidor reste dans l'histoire du Tour de France une figure iconique, parfois associée à l'image de la France. Valeureuse, combattante, mais au final perdante. Avez-vous, à la lumière de votre expérience d'homme d'État, le sentiment que nos compatriotes préfèrent les défaites héroïques aux victoires sans panache ?
Non, je crois que le héros français, si on réfléchissait comme ça, le héros français, c'est Monte Cristo. Le héros américain, c'est John Wayne. Le héros américain, il est grand, fort, beau, il pleure jamais, il perd jamais. Il ne met jamais un genou à terre. Le héros français, il faut qu'il revienne de l'enfer. Et Monte Cristo, de ce point de vue, est un héros français extraordinaire. Car il est tombé au plus bas du plus bas, avant de revenir. Et je pense que, dans l'amour du public pour Raymond Poulidor, ce n'est pas une fascination pour la défaite. C'est que le public avait intégré que, sans doute, Raymond Poulidor était moins doué que Maître Jacques. Maître Jacques, comme on disait...
C'est-à-dire Anquetil.
Anquetil pouvait faire un peu n'importe quoi, y compris la fois où, pendant la journée de repos, il avait, au lieu de s'entraîner, préféré partager un méchoui avec Raphaël Gimignani. Et je pense que ce qu'aimait le public, et ce qu'aime le public de Poulidor, c'est qu'il y avait beaucoup de souffrance et beaucoup de travail derrière ça. Beaucoup de simplicité. Parce que Poulidor a gagné. Il n'a pas fait que numéro 2. Je pense que pour aimer ces héros, les Français ont besoin qu'ils souffrent. Je pense que pour Napoléon, la défaite, l'exil, ont compté beaucoup dans sa légende. Et c'est une spécificité française que vous ne retrouverez pas aux États-Unis de la même façon.
Alors, Nicolas Sarkozy, on va marquer une deuxième pause et on va revenir en parlant du Tour de France qui a toujours eu avec les présidents de la République un rapport particulier.
Je viens de là, de cette enfance, de Lozère, de Loire, Atlantique. Que traverse le Tour de France et sa caravane héroïque. Tous ces joueurs d'accordéon assis sur le toit des voitures, ça passait comme un tourbillon dans la poussière de l'aventure. Jacques Anquetil et Poulidor, Fausto Coppi, Louison Bobet, en haut de la côte de Châteaufort, dansaient les héros de juillet. Je viens de là, des fleurs sauvages, des fermes voisines, des étangs. On guettait les hommes de courage et les jouets lancés aux enfants. Tant de couleurs, tant de maillots, et dans un concert de klaxons, caméraman sur les motos, les haut-parleurs au maximum. Eddie Merckx comme Bernardino, Laurent Fignon, Bernard Thévenet, même le dernier des porteurs d'eau était un héros de juillet. Les Gimondi, Roger Pinjon, des Pyrénées au Tourmalet, l'empreinte des roues sur le goudron, la marque des héros de juillet. Robert Chabat, Antoine Blondin, comme des millions de gens, je pense, ils savaient bien, dans la légende et la souffrance, ce qu'est de gagner un Tour de France, ce qu'est de gagner un Tour de France.
Nicolas Sarkozy, le Tour de France a toujours eu avec les présidents de la République un rapport particulier. En 1960, le Tour de France s'arrête à Colombey pour saluer le général de Gaulle. C'est-à-dire que ce n'est pas le général de Gaulle qui les salue, c'est eux qui s'arrêtent pour aller saluer le général de Gaulle. En 1975, Valéry Giscard d'Estaing va profiter de la première arrivée du Tour sur les Champs-Élysées qu'il avait autorisé pour remettre le maillot jaune à Bernard Thévenet. Et vous-même, en 2007, vous serez le premier chef de l'État à vous installer dans la voiture du directeur de course afin d'y suivre une étape, initiative que vos successeurs reprendront tous les uns derrière les autres. Pour le premier des Français, le président, de quoi le Tour de France est-il le symbole ?
Le président doit participer aux fêtes populaires, aimer les fêtes populaires, partager les sentiments populaires. Si le président n'est pas passionné par le Tour de France, ne comprend pas le Tour de France, ne vibre pas au Tour de France, c'est qu'il ne vibre pas au son des populaires français. Et ça, c'est une difficulté. Quand j'ai été pour la première fois en tant que président sur le Tour, ça fait une polémique comme toujours, on fait une polémique surtout. Mais au moins, ne pouvait-on pas, à l'époque, mettre en cause ma sincérité dans mon attachement au Tour de France ?
Mais tout le monde l'a fait après vous.
Ça prouve que c'était juste de le faire. Mais moi, j'ai même été sur le Tour quand il y a eu l'affaire Festina.
Il faut rappeler l'affaire Festina.
L'affaire Festina, c'est quand les perquisitions, les suspicions de dopage, depuis il y a eu beaucoup d'éléments nouveaux. Tout le monde déguerpissait, tout le monde fuyait le Tour. Moi, j'ai dit, il faut y aller, parce qu'on en a besoin. Bon. Et je ne comprends d'ailleurs pas l'acharnement particulier qu'il y a sur les coureurs cyclistes, qui sont en général des gens qui viennent de milieux modestes, qui souffrent beaucoup, qui donnent beaucoup. Et je suis heureux qu'il reste encore un sport gratuit. On peut, en famille, venir voir, sans ticket acheté, sans barrière à franchir, gratuitement.
C'est vrai qu'il faut avoir faim pour faire du vélo en professionnel, parce que c'est quand même très dur comme la boxe.
On a souvent d'ailleurs associé ces deux sports en disant qu'ils étaient sans doute parmi les plus difficiles.
Et c'est vrai. Est-ce que le Tour n'est pas l'expression aussi d'une certaine nostalgie, d'une France qui n'existe plus ? La France des Trente Glorieuses avec sa caravane publicitaire, ses routes qui exaltent le monde rural, ses arrivées dans les villes moyennes. Est-ce que ça ne renvoie pas l'image d'un pays harmonieux, apaisé, fraternel, loin des tensions contemporaines?
Moi, je crois que...
Est-ce que ce n'est pas pour cette raison qu'on l'aime, le Tour?
Moi, je crois que cette France-là, elle existe encore. Ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas dans les médias, ce n'est pas parce que les élites l'oublient qu'elle n'existe plus. Elle existe. Et d'ailleurs, le monde au bord des routes montre bien qu'elle existe. Quand ce maire écologiste, dont je ne citerai même pas le nom, parce qu'il ne le mérite pas, à traiter le Tour de France d'homophobe et d'anti-écologiste, je me suis dit, on est vraiment dans un pays où une partie des élites est en train de perdre tout bon sens. Tout bon sens.
Il y a aussi beaucoup d'écologistes qui font du vélo et qui aiment le vélo.
Enfin, c'est extraordinaire de demander à ce qu'on mette des pistes cyclables partout et de détester le Tour de France. Où est la logique là-dedans? On aime la bicyclette et on n'aime pas le vélo,
je crois.
C'est vrai. Si c'est un cas de particulier, il ferait bien de s'en occuper. Parce que parfois, il y a des cas particuliers qui peuvent faire jurisprudence.
Et regardez, les élus et tous les territoires se battent pour accueillir une étape du Tour de France. Et est-ce que c'est le signe aussi de la modernité de cette épreuve?
Mais moi, je vois le sport aussi comme une activité économique. Je ne vois pas pourquoi quelqu'un qui investirait dans une équipe de football doit perdre de l'argent. Je ne vois pas pourquoi ASO, qui est la société propriétaire du Tour de France, devrait s'excuser de gagner de l'argent. Le sport participe à la vie économique de notre pays, crée des emplois, génère des revenus, met de la publicité au bon sens du terme sur des territoires qui, sans lui, ne seraient pas connus des Français. Il faut arrêter de dire que le seul sport qui serait légitime ou digne, c'est celui qui perdrait de l'argent.
Est-ce que certains sociologues, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette interprétation, certains sociologues expliquent que la France du Tour, c'est la France des gilets jaunes.
Enfin, moi, je ne suis pas gilet jaune et je me sens de la France du Tour. Parfois, à force de vouloir tout expliquer, on finit par désexpliquer. Le Tour de France, c'est la France. Et il n'appartient à personne d'autre qu'aux Français qui s'émerveillent génération après génération. Il n'est que de voir les audiences de France Télévisions. Tous les mois de juillet, heureusement qu'il y a le Tour de France. Le Tour de France, c'est une épopée. C'est une épopée avec des acteurs différents selon les générations et avec un final différent selon les tours qui se succèdent. Mais ça ne déçoit jamais. On ne s'ennuie jamais dans le Tour de France. Et même quand il ne se passe rien, il se trouve le moyen qu'il y ait des chutes, qu'il y ait des événements, qu'il y ait des trombes d'eau ou une canicule sans précédent. Le Tour de France n'est jamais une déception.
Mais je trouve quand même, quand on examine un peu l'histoire du Tour de France et l'arrivée des étapes, que les grandes villes et les banlieues attirent moins de départs ou d'arrivées d'étapes que la France périphérique. Est-ce que c'est dû, à votre avis, aux lourdes contraintes logistiques que l'organisation impose, ou faut-il y voir une image subliminale des fractures françaises?
Non, regardez les dernières étapes qui traversent la Seine-et-Marne, l'Essonne ou les Yvelines, avant d'arriver sur les Champs-Élysées. Vous pensez qu'il y a moins de monde sur les routes? Il y en a tout autant. Les Français sont là. Et les Français sont là à chaque fois qu'on ne triche pas. Et en vélo, la douleur ne permet pas de tricher.
Donc, le vélo, de toute façon, c'est quand même un lieu de rassemblement, toutes classes confondues.
Vous savez, moi, je pratique le vélo, donc, je vous l'ai dit. Et c'est sympathique parce que je croise beaucoup de cyclistes. Et le vélo abat les barrières. Le vélo désamorce l'agressivité. Parce que quand on est au sommet d'un col, ou quand on est en train de monter un col, et que je croise un cycliste, même s'il n'a pas voté pour moi, même s'il m'aime pas, c'est son droit. Quand il me voit sur les pentes, il dit « Salut Sarko ». C'est comme un geste amical. Parfois, quand on est dans le même hôtel que quelqu'un, le quelqu'un dit « Tiens, on est amis puisqu'on est dans le même hôtel ». Ou parfois, dans un avion, on dit « On est amis puisqu'on est dans le même avion ». Mais quand on est sur la route, souvent, je croise des cyclistes. « Hé, on peut faire une photo ?» Mais je dis « Bien sûr ». Mais simplement, en haut. Jamais pendant. Parce que jamais je mets pied à terre.
Ah oui, vous arrêtez jamais? Si.
Jamais.
Pour boire un coup?
En haut. Non, pas simplement pour boire. Tous les cols franchis, je m'arrête là-haut.
Ah oui.
Je bois et je mange un peu. Parce qu'au vélo, c'est quand même l'un des seuls sports où si vous ne remettez pas de carburant, vous ne rentrez pas à la maison.
Alors, je crois qu'on peut dire que le Tour magnifie la France. ces paysages, ces monuments, notamment grâce aux images que les télévisions envoient au monde entier. 60 pays retransmettent en direct le Tour de France. 60 pays. Est-ce que c'est devenu un élément de l'attractivité de notre pays, une sorte d'instrument de promotion de notre économie touristique ?
C'est un cadre exceptionnel. Et d'ailleurs, je dois dire que les retransmissions sont tout à fait remarquables. Et moi, j'aime bien qu'il y ait des explications de temps à autre sur tel ou tel bâtiment, sur telle ou telle vallée, sur tel ou tel lac, sur telle ou telle rivière. J'aime bien écouter les commentaires des uns et des autres. Parfois, j'ai le sentiment que je les écoute davantage en tant que spectateur que les journalistes en tant que commentateurs.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça harmonise les couples, finalement. L'homme regarde plutôt l'effort du cycliste et le reste de la famille aussi, les paysages, les explications historiques, les lieux, les monuments,
oui,
les églises.
Ça vous expliquerait avec Carla sur cette interprétation, je ne vous suivrai pas là-dessus.
Et ça contribue à sensibiliser les Français à la nécessaire protection du patrimoine.
Bien sûr, le Tour de France est en soi un patrimoine immatériel, mais c'est un patrimoine. Et c'est pas rien, un succès qui dure. Et c'est une identité, comme les Italiens ont le Giro ou les Espagnols ont la Vuelta. Mais le Tour s'inscrit dans un peu plus d'un siècle d'existence. Et dans notre société de l'éphémère, où tout se jette, où rien ne compte, où bien souvent les choses sont cheap, la durée donne de l'épaisseur et de l'attachement.
Nicolas Sarkozy, le Tour, c'est aussi une source d'inspiration pour les journalistes et les écrivains, d'Antoine Blondin à Denis Tillinac. Est-ce que vous envisagez un jour d'écrire vos propres chroniques du Tour de France ?
Ah, j'aimerais tellement qu'on me le demande. Moi, je ne suis pas un écrivain. Mais la littérature sportive a ses écrivains, a son rythme, et comme toujours... Qu'est-ce qui compte dans la littérature ? C'est les sentiments extrêmes. Qu'est-ce qui compte dans le sport ? C'est les émotions extrêmes. Ils sont faits pour se rencontrer.
Alors, on est arrivé presque au sommet de l'émission. On va évidemment se désaltérer brièvement et on va revenir.
10h, 11h sur Europe 1. Les grands entretiens. Charles Villeneuve.
Nicolas Sarkozy, au fil du temps... Le Tour de France est devenu international. Il a épousé les tendances du sport business pour le meilleur et pour le pire. La révélation des scandales du dopage, vous en avez parlé tout à l'heure, ont altéré la magie, à vos yeux, de la crédibilité de la compétition.
Non, ils l'ont altéré pour ceux qui n'aiment pas le vélo, pas pour ceux qui, comme moi, aiment le vélo. Le dopage nécessite un combat sans faiblesse contre lui. Le dopage a existé dans le vélo comme dans d'autres sports. Aujourd'hui, le vélo est sans doute l'un des sports les plus contrôlés au monde. Au monde. Et donc moi, je n'ai rien à voir avec les gens qui se dopent. Je n'aime pas ça. Mais c'était une réalité de ce sport. Mais je trouve que parfois, on demande aux cyclistes plus de transparence qu'aucun autre sport.
Mais... C'est vrai quand même que la suspicion du dopage, et j'en suis étonné moi personnellement, n'a pas entamé l'amour des Français et du public international. C'est étonnant, puisque tout à l'heure nous disions que 60 pays retransmettent en direct les étapes du Tour de France. Et c'est quand même extravagant que tous ces pays adhèrent finalement au sport cycliste.
Parce que les gens voient bien la vérité et la vérité de la souffrance. Alors bien sûr, quand on parlait de Pantani, on peut penser qu'il s'est dopé. Bien sûr, il y a eu les affaires Armstrong. Mais malgré tout, la souffrance qu'endurent ces gens-là, elle est respectable.
Est-ce que vous soulignez d'ailleurs, à juste titre, que le cyclisme est probablement un des sports qui a le plus lutté, le plus combattu le dopage depuis l'affaire Festina ? Pourtant, les performances de certains coureurs n'échappent pas aux interrogations. Est-ce que nous sommes entrés dans le cyclisme, comme dans d'autres activités humaines, à l'ère du soupçon généralisé ? Et comment faire pour lutter contre cette évolution ? Parce que c'est vrai qu'un peu partout, maintenant, on soupçonne tout.
Vous savez, on est très largement rentré de l'ère de la suspicion, de la dénonciation, de la haine, où l'émerveillement, la bienveillance sont des valeurs qui disparaissent. Hein ? C'est Camus qui parlait de la polémique et qui disait « Celui qui polémique ne voit pas des êtres humains, il voit des silhouettes. » J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le débat public est devenu un débat entre des silhouettes, des concepts.
Est-ce que vous craignez, à la faveur de la multiplication des épreuves internationales, que le sport soit victime de son succès et que les athlètes ne puissent plus suivre les cadences imposées ?
Non, parce que je pense que la médecine a fait de grands progrès en la matière, que les examens qui sont imposés en début de carrière et tout au long de la carrière permettent de contrôler les choses infiniment mieux qu'à l'époque de Simpson ou de tant d'autres qui n'étaient pas suivis comme ils le sont aujourd'hui. L'autre jour, dans le championnat d'Europe, dans la Coupe d'Europe des Nations, ce joueur danois qui fait un arrêt cardiaque, c'est assez bouleversant. On voit les progrès de la médecine et comment, sous les yeux de sa femme éplorée, on se sentait si proche d'elle à ce moment-là, ils font revenir d'une mort certaine ce jeune homme en pleine forme qui fait une crise cardiaque sur le terrain. Même pas après une course, il s'écroule. C'est aussi le sport, ses mystères, ses injustices et la vie où tant de choses nous sont incompréhensibles. C'est peut-être pour ça qu'on s'émerveille.
Pour terminer, si vous en êtes d'accord, dans le peloton actuel, quel coureur vous impressionne par son style ?
J'en ai tellement. J'aime notre champion du monde.
Julian Alaphilippe.
Mais que j'avais vu gagner une étape dans les Alpes il y a quelques années. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de coureurs qui méritent notre admiration. Et j'aime beaucoup le petit Gaudu. J'aime aussi Madouas. Je sais qu'ils sont proches. Mais
vous parlez de Gaudu, vous n'avez pas l'impression quand même, quand on regarde les champions français d'antan, ceux que vous avez cités, que c'est une petite cylindrée ?
Non. Je pense qu'il y a des cycles, que dans une famille politique, on ne trouve pas toujours, tout de suite, le leader de rechange, et que dans une équipe cycliste, c'est pareil.
Mais par exemple, cette éclosion, je dirais génération presque spontanée, qui monte en puissance de coureurs qui viennent de l'Est.
Oui, mais si vous regardez ces joueurs italiens fantastiques.
Qui physiquement, d'ailleurs, n'impressionnent pas.
Qu'on trouve tout d'un coup comme ça. Bon, moi, je suis quelqu'un qui m'émerveille. Je ne suis ni dans la politique, ni dans la polémique, ni dans la suspicion.
Est-ce que vous voyez une victoire française dans le Tour pour bientôt ?
Je l'espère. Je l'espère de tout cœur. On a quand même maintenant des gens qui sont capables de gagner des classiques, hein, que ce soit Milan-San Remo avec Desmar ou que ce soit avec Alaphilippe, tout ce qu'il a gagné, plus le championnat du monde, on aura un grand vainqueur. C'est simplement une question de temps. Et puis aussi, vous savez, quand vous venez d'un pays où on n'a pas tout, la fin de victoire, elle est plus importante.
Vous parlez notamment des Colombiens, des gens d'Amérique du Sud.
Bon, les Colombiens, vous comprenez, quand les routes d'entraînement, c'est entre 2500 et 4000 mètres, évidemment que les Alpes, ça vous paraît un peu plat.
Est-ce que le Tour de France appartient au patrimoine collectif de la nation comme le 14 juillet ?
Oui, exactement. Exactement.
Comme le défilé ?
Bon, c'est pas la même signification. Mais ce sont des rendez-vous incontournables qu'il ne faut pas voler aux Français.
Bouclons la boucle. Finalement, au départ, vous disiez c'est une grande fête populaire. C'est une longue fête populaire.
Bah, boucler la boucle, c'est dire que la grande boucle m'a accompagné dans mes premières années et m'accompagnera aussi dans mes dernières années. Une passion qui dure. C'est ça, une passion française. La passion du Tour de France.
Merci Nicolas Sarkozy. Dimanche prochain, même heure, entre 10h et 11h, le second entretien de l'été. fera le point sur le vaccin français, parce qu'il y aura un vaccin français d'ici la fin de l'année. Olivier Baugilot, le directeur de Sanofi, va venir l'affirmer, le décrypter, raconter comment nous avons été un peu largués au départ et comment nous avons rattrapé le retard. Il y aura donc un vaccin français. Voilà, merci.
Eh bien, je vous écouterai.